Léa Salamé, votre invitée ce matin, est ancien Premier ministre et maire de Bordeaux.
Bonjour Alain Juppé.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous ce matin. Souvent, vous avez parlé de la tentation de Venise, mais quand on lit votre dictionnaire amoureux de Bordeaux, on se dit que la Belle Endormie a bien plus de charme à vos yeux que la Sérénissime. Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois que vous montez, depuis 21 ans maintenant que vous êtes maire de Bordeaux, à chaque fois que vous montez le grand escalier imposant du Palais Rohan?
J'aime ma ville. D'abord, elle est belle. Elle l'a toujours été. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais on l'a fortement embellie depuis une vingtaine d'années. Et puis, je m'y sens bien parce que j'ai l'impression d'être utile. J'ai beaucoup apprécié l'éditorial qui a été donné tout à l'heure sur le rôle des élus. Juste une petite parenthèse. Qui était en première ligne dans l'Aude face aux inondations? Les maires.
Les maires
de petites communes qui se dévouent nuit et jour, finalement, à cette cause.
Et vous entendez le malaise des élus aussi,
bien
ce
sûr,
que disait Yael Gauche.
Je l'entends, mais en même temps, cette idée qu'on ne va pas se représenter, elle est vieille comme le monde. Hein. Et puis, au moment de sauter le pas, en réalité, on continue parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné par le travail que l'on fait, par le contact avec ses concitoyens.
C'est une déclaration de candidature pour les prochaines municipales?
Je ne m'y attendais pas si tôt.
Moi non plus, je n'avais pas préparé si tôt.
Pour l'instant, je travaille, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma ville, et comme je l'ai dit, après les élections européennes, j'annoncerai mes intentions.
Ouais. Vous ne m'avez pas répondu, qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez ce grand escalier? Pourquoi je parle du grand escalier? Parce que c'est l'une des occurrences de votre dictionnaire.
C'est vrai, j'en parle beaucoup. D'abord, c'est l'un des lieux les plus merveilleux de cet hôtel de ville, qui a été d'abord le palais de l'archevêque de Bordeaux. C'est une belle prouesse architecturale. Puis ça me rappelle Chabanne qui le gravissait 4 à 4 en international de rugby, ce que je ne suis pas. Puis ce sont des moments aussi importants que je raconte dans ce livre, puisque le soir des élections, j'avais l'habitude de le descendre pour aller dans la salle de presse, commenter les résultats. Donc pour moi, c'est un peu ma vie quotidienne.
Vous racontez vos flâneries, votre amour des vins du Bordelais, des femmes bordelaises qui sont belles, dites-vous. Il y a de l'hédonisme, de la chair dans votre dictionnaire, ça peut étonner certains, de la gourmandise aussi, éloge du cannelé bordelais, des escargots, de la brouillade aux truffes. Et puis alors, plus étonnant, vous l'écolo, vous assumez une passion très mitterrandienne, très anti-écologique et même carrément illégale pour les ortolans. Je vous cite, comment résister au plaisir unique, d'autant plus bouleversant qu'il est interdit, que procure la dégustation d'un ortolan et le rite qui l'accompagne.
Je vous rassure, j'ai arrêté.
Ah, vous le dites pas. Hein.
Aujourd'hui, c'est interdit, donc voilà. La chasse est interdite, la commercialisation est interdite, mais c'est toute ma vie, d'une certaine manière. C'est une spécialité très landaise. C'est pratiquement le seul département où on pratique ce culte, la chasse de ce petit oiseau migrateur qu'ensuite on engraisse de manière un peu cruelle.
Barbare, même, vous le dites, vous racontez.
Qu'on étouffe dans l'Armagnac et qu'on déguste tout entier en le tournant dans sa bouche. Voilà, c'est un plaisir hédoniste, vous l'avez dit. Bon, je me suis collé au fil des années l'image de quelqu'un d'un peu froid, insensible, mécanique, Amstrad, etc. C'est pas tout à fait moi.
Ouais, en tout cas, avec les ortolans, c'est pas vous. Vous citez évidemment le bordelais le plus célèbre de la ville, Montaigne. Montaigne qui célébrait l'esprit de modération. Montaigne qui aurait sans doute détesté notre époque, faite d'excès de colère, de bruit, de coups d'éclat. Alain Juppé, que peut la modération face au bruit et à la fureur?
Résister, ça n'est pas facile. Je déteste la violence physique et même la violence verbale. Et nous sommes dans un monde où l'escalade se poursuit, on en a eu quelques exemples récemment. Et avec Montaigne, je dis souvent que la modération, ça n'est pas une facilité. En général, un modéré, c'est un mou, c'est le marais, etc. C'est pas ça. Pour être modéré, il faut beaucoup de courage, il faut résister à la tentation de cette montée aux extrêmes que l'on voit un petit peu partout. Et Montaigne, de ce point de vue-là, Montesquieu aussi. Montesquieu fait souvent l'éloge de la modération. Mérite d'être relu et puis peut-être mise en musique dans le monde dans lequel nous vivons.
Vous l'aimez l'époque, vous?
Oui, bien sûr, j'aime bonne époque, elle est comme elle est.
L'hystérie de l'époque, l'immédiateté.
Oui, vous savez, ma petite manie, c'est de relativiser les choses. Hein. Des choses qui apparaissent comme tout à fait nouvelles aujourd'hui ne le sont pas vraiment. La violence de la vie politique au début du XIXe siècle était au moins aussi grande qu'aujourd'hui. Et puis, la violence tout court, dans le passé, était aussi très forte.
Oui, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux.
C'est vrai. Alors ça, c'est quoi les réseaux sociaux?
Vous en avez souffert, vous, pendant la campagne.
C'est le pire et le meilleur. Hein. C'est formidable, parce que ça permet... un dialogue permanent, mais en même temps, on y trouve tout. J'ai dit parfois que c'est la poubelle, parce que l'anonymat favorise la haine, la méchanceté et la bêtise. Hein. Et j'en ai souffert, évidemment, pendant ma campagne des primaires.
Oui, vous en parlez notamment. À la lettre C du dictionnaire, il y a Chaban Delmas, autre maire emblématique de Bordeaux. Vous avez retrouvé le discours de Chaban sur la nouvelle société qui ressemble à s'y méprendre au nouveau monde théorisé par Emmanuel Macron. Vous, Alain Juppé, vous dites au contraire, le clivage gauche-droite garde tout son sens. Vous êtes ancien monde assumé.
1969, le discours de Chaban. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la France souffre de la faiblesse de sa base industrielle. On l'entend aujourd'hui. Les méthodes de formation professionnelle sont insuffisantes. Les PME, PMI sont étouffées par la complexité administrative et le poids des impôts. On pourrait le prononcer encore aujourd'hui. Vous voyez, il ne faut pas s'imaginer qu'on invente le fil à couper le beurre tous les matins.
Hein. Vous avez dit ça à Macron ?
Voilà. Non, ça ne vise pas particulièrement Macron, ça nous vise tous. Parce que
c'est lui qui a théorisé le nouveau monde, comme
oui,
si c'était...
Oui, on a vu aujourd'hui que le nouveau monde... voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que quand Christophe Colomb est parti à la découverte du Nouveau Monde, c'est pas l'Amérique qui cherchait, c'est autre chose. Donc, on a parfois des surprises. Voilà, donc c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons est riche de promesses extraordinaires. Prenons la transformation numérique que nous vivons tous au quotidien. C'est formidable. Pour notre santé en particulier, ça va nous donner des outils merveilleux. Et en même temps, pardon, mais c'est un mot classique de la langue française que personne n'a inventé. Hein. Donc, en même temps, il y a des menaces. Il y a des menaces pour notre vie quotidienne, il y a des menaces sur l'emploi.
Alors, on d'autres. Y va, sur les menaces. La Commission européenne a rejeté pour la première fois de l'histoire le budget italien hier. Est-ce un déni de démocratie, comme le disent les Italiens ?
Non, c'est la démocratie, puisque ce sont des règles qui ont été fixées démocratiquement. C'est pas le président de la Commission qui a inventé ça. Ce sont les États membres qui, pour préserver l'euro, ont fixé un certain nombre de règles qui sont des règles de bon sens. Les 3%, ça peut paraître contestable, mais ça veut dire quoi les 3%? Qu'on ne peut pas additionner des déficits, parce que quand on additionne des déficits, on augmente la dette. Et il y a un moment où les prêteurs vont cesser de prêter. L'Italie a une dette gigantesque.
130%
la France
ne
fait
PIB.
Pas si mal non plus.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, on est à 100%.
On est pratiquement à 100% de notre PIB. Il y a un moment où ça va se dérégler.
Oui, d'accord, mais les Italiens disent que c'est le budget du peuple, qu'ils ont été élus sur un programme de relance avec des mesures sociales en direction des retraités, en direction des classes populaires, en direction des plus pauvres, et qu'ils ne font qu'appliquer ce pourquoi ils ont été élus.
Je ne veux pas entrer dans le débat avec nos amis italiens, mais la démocratie parfois a de drôles de visages. Hein. Est-ce que quand les Italiens ont voté, ils s'attendaient à avoir une coalition entre les 5 étoiles et la Ligue du Nord ? Non, c'est une coalition qui s'est constituée au lendemain des élections. Et donc, quand ils racontent qu'ils ont un mandat populaire pour le faire, ça se discute.
D'accord, mais quand on voit les sondages, aujourd'hui, il reste très populaire. Salvini est encore plus populaire qu'au moment de l'élection.
Certes, mais ce qui me paraît très intéressant aussi, c'est la façon dont les choses évoluent dans le temps. Le discours pendant les élections italiennes a été très anti-européen. Que dit aujourd'hui M. Salvini lui-même ? Pas question de sortir de l'Europe, pas question de sortir de la zone euro. Donc, vous voyez qu'il faut aussi relativiser ce genre de prise de position.
Est-ce que vous avez compris pourquoi le dynamisme, la puissance et je dirais même le romantisme sont passés du côté des populistes aujourd'hui. Qu'est-ce que les pro-européens, qu'est-ce que vous avez raté ?
Parce que nous ne battons pas suffisamment. Nous sommes en défensive permanente. Nous essayons de justifier l'Europe. Il faut au contraire entreprendre une véritable action contre la coalition des casseurs d'Europe. Je suis aujourd'hui pour la première fois vraiment inquiet sur l'avenir de l'Europe.
Parce mais moi, ça fait 15 ans que je suis journaliste, 15 ans que j'entends ce discours catastrophiste, c'est la fin de l'Europe.
Non, je ne pense pas qu'on ait jamais assisté à ce qui se passe aujourd'hui. C'est la première fois que le gouvernement des États-Unis considère que l'Europe est une ennemie. Depuis la guerre, toutes les administrations américaines ont soutenu la construction européenne. Avec Trump, ça change. Poutine est en train de saper méthodiquement la construction européenne. C'est la première fois que vous voyez émerger dans certains pays des régimes qui mettent en cause les fondements même de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice. Donc il y a un vrai danger. Et en même temps, je crois que les peuples, c'est pour ça que c'est compliqué, comprennent que si on se sépare les uns des autres, on est réduit, condamné à une forme de vassalité par rapport aux grandes puissances qui sont autour de nous. Moi, je suis très attaché à la communauté de destin entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en Afrique ? La Chine est en train de prendre position partout. En Éthiopie, la Chine est partout présente. Donc ne nous laissons pas tondre la laine sur le dos.
Alors Juppé, on a compris que vous ne serez pas candidat, que vous n'avez pas envie de vous relancer.
Ça, je l'ai dit,
oui,
non ?
Oui, on est bien sûr. Je voulais pas faire répéter.
Oui, non, je vous confirme. Voilà. Ça ne sera pas un scoop, pardon.
Quel va être votre rôle dans cette campagne européenne ? Est-ce que vous ferez les meetings d'En Marche un peu partout en France pour soutenir l'invité VIP, pour redonner l'élan, pour être le vieux sage qui vient mobiliser les foules ? Ce sera ça, votre rôle ?
D'abord, je regarderai les projets. que nous propose-t-on pour l'Europe? Alors, il y a déjà des propositions sur la table. Hein. Le discours de la Sorbonne du président Macron me convient très bien. Le seul problème pour lui, c'est qu'il est tout seul en Europe aujourd'hui pour avancer. Donc moi, j'ai bien l'intention de ne pas rester silencieux. Je ne serai pas candidat. Je ne me mêlerai pas de la constitution des listes. C'est plus mon affaire. En revanche, je dirai ce que je pense sur le fond et je soutiendrai ceux qui défendent un projet européen qui me paraît adapté aux circonstances
donc,
et à l'avenir du pays.
Ah,
ça, c'est votre conclusion.
Ben,
j'attends de voir les propositions des uns et des autres.
Vous
c'est
avez
vrai
encore des doutes ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, la position européenne, les propositions européennes du président Macron me semblent aller dans la bonne direction.
Quand il dit ces européennes, ce sera moi ou le chaos, c'est pas un peu court comme argument ?
Oh, quand le général de Gaulle le disait, tout le monde applaudissait. Enfin,
Emmanuel Macron, c'est le général de Gaulle ?
Non, mais enfin, là encore, projetons-nous sur la durée.
Allez, un dernier mot, vous êtes en photo dans l'équipe ce matin, vous avez vu ?
Non.
Les Girondins de Bordeaux devaient être vendus à un fonds d'investissement américain. Vous aviez validé la vente. Or, on apprend ce matin qu'elle est encore repoussée pour un problème administratif. La vente peut-elle échouer ? Les Girondins sont-ils en danger ?
J'ai reçu l'assurance du repreneur, pas plus tard qu'hier soir, que la reprise se ferait, que c'était un problème technique et que, comment on dit maintenant en français, le closing se ferait au plus tard le 6 novembre.
Vous avez confiance ?
J'ai confiance et de toute façon, si cette reprise ne se ferait pas, M6 resterait responsable devant la ville et la métropole de la situation.
C'est le closing de cette interview, mais vous restez avec nous,
Alain Juppé. Était avec nous, dictionnaire amoureux de Bordeaux, mais vous pouvez revenir, hein, chez Plomb.
Ne bougez pas,
Belle journée à vous.